avec une mission bien précise en tête, Seigneur. Ta vie prenait un sens. Cet sens, tu l'as trouvé entièrement dans ta mort et ta résurrection. Seigneur, je veux te remercier pour les chants, pour les voix. J'ai hâte, Seigneur, d'être au ciel dans ta présence et d'avoir cette promotion extraordinaire, d'avoir une voix semblable, j'espère, pour pouvoir chanter à mon tour, Seigneur, tes louanges. Viens nous rencontrer ce matin. Père, je crois par la foi que tu es présent en esprit au milieu de nous, que tu es ici. Et Seigneur, c'est un acte de foi que je fais, mais ça fait plus de 20 ans maintenant, Seigneur, que je marche dans cette foi et que je te vois bien actif dans ma vie, dans ma famille, chez les gens autour de moi. Alors, je te demande ce matin de te manifester dans nos cœurs par ton esprit, de parler à nos cœurs, d'ouvrir nos cœurs, Seigneur, à entendre ce beau message de ta venue et du sens, Seigneur, qu'il prend. Je te demande de venir nous bénir, Seigneur, ce matin, de venir nous toucher, alors que nous nous préparons à fêter cette fête de Noël. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Amen. Je vous mentionne aussi la semaine prochaine, évidemment, on va être le 23, on va être à la veille de Noël vraiment cette fois-là. Alors, on va rester dans le même sujet. Et la semaine prochaine, on va être dans l'Évangile de Jean, au chapitre 1. On va aller voir ensemble qu'est-ce que ça veut dire toute cette incarnation, le fait que Dieu vient sur terre et se fait homme. On va aller voir ça ensemble dans Jean 1, les versets 14 à 16 la semaine prochaine. Alors, je vous lis le passage, Matthieu 1, 18 à 25, quelques versets, et puis on va regarder ça ensemble ensuite. Matthieu 1, 18. C'est l'évangéliste Matthieu qui est en train de raconter la naissance de Jésus, d'accord? Ou sa conception puis sa naissance éventuellement. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Et il prit sa femme avec lui, mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. J'ai pris ce passage-là, évidemment, parce qu'on se prépare à célébrer Noël. Noël, c'est une des plus vieilles fêtes chrétiennes. On pense à Pâques, évidemment, que les chrétiens fêtent. Les Juifs l'ont fêté premièrement. Les chrétiens fêtent la Pâque, puisque pour nous, Pâques, c'est vraiment tout le sens, a pris tout son sens dans l'œuvre que Jésus est venu accomplir par sa mort et sa résurrection. Mais la deuxième fête, je dirais, la plus importante pour les chrétiens, c'est définitivement la fête de Noël. C'est une fête que les chrétiens célèbrent depuis des siècles maintenant. Et par cette fête-là, on veut commémorer, on veut se rappeler la naissance de Jésus-Christ. Maintenant, on est dans une culture où les gens perdent le sens de Noël de plus en plus. Les référents culturels religieux sont en train de disparaître de plus en plus. Et ce qu'on entend souvent parler à Noël, c'est de la naissance du petit Jésus. Alors, j'ai donné comme titre à ce court message-là, « Un petit Jésus pour nous sortir du trou ». Un petit Jésus qui est né à Noël. Puis, cette année, je ne sais pas si vous avez suivi un peu dans les médias, mais il semble que le petit Jésus s'en vient de plus en plus petit. Il est rendu tellement petit qu'il semblerait qu'on n'arrive plus à trouver sa maison. Il a même perdu sa maison. Parce que dans les magasins, on ne vend plus de crèches, il semblerait. C'est ce que j'ai lu. De moins en moins de magasins vont vendre des crèches à Noël. Alors, notre petit Jésus en est même venu à perdre sa maison. Puisque c'est juste un Jésus de la culture et il est en train de perdre tout son sens, le sens que les Saintes Écritures veulent nous faire connaître sur la personne de Jésus. Et pendant que j'étais en train de réfléchir à ça cette semaine, je me disais, dans le fond, ça change pas tellement, puisqu'à l'époque, ceux qui connaissaient bien le récit biblique, Jésus cherchait aussi une place. En fait, les parents de Jésus cherchaient une place où la mère pourrait accoucher. Alors déjà, à cette époque-là, il semble que le petit Jésus n'avait pas de maison. plus ça change, plus c'est pareil. Puis j'étais en train de réfléchir à ça et vous savez quoi? Il y a des gens qui ont de la nostalgie de voir que dans notre culture, la culture perd de plus en plus les notions religieuses et de plus en plus on est en train de perdre ces fondations-là. Ça a commencé avec la Révolution tranquille, évidemment, au Québec. Et rapidement, il y a eu un exode de l'Église catholique et cette culture religieuse-là est en train de disparaître de plus en plus. Et chaque fois que j'entends des gens qui sont très nostalgiques de cela et qui trouvent ça malheureux, je suis divisé personnellement. Je suis divisé dans le sens que, oui, ça me fait quelque chose, parce que je voudrais que tout le monde connaisse Jésus-Christ comme je le connais. Alors, dans ce sens-là, ça me fait quelque chose. D'un autre côté, le Jésus culturel, c'est pas le Jésus que je connais. Et le petit Jésus, moi, je l'ai jamais connu comme un petit Jésus, voyez-vous? Pour moi, il a toujours été un très grand Jésus. Alors que le petit Jésus culturel disparaisse, bien, je sais pas si vraiment, vraiment, ça me fait quelque chose. Je me demande si des fois, on n'est pas mieux tout simplement de partir de zéro et de pouvoir faire connaître aux gens qui est Jésus-Christ selon les Saintes Écritures, plutôt que selon ce que les traditions ont pu communiquer sur la personne de Jésus. Comme on va le voir ensemble ce matin, Jésus n'est pas un petit Jésus, c'est pas le Jésus qui nous est présenté dans la Bible, et nous n'avons que les Saintes Écritures pour connaître Christ. Pour connaître Jésus-Christ, on n'a que la Bible, ce n'est pas un petit Jésus que la Bible nous montre. Même dans sa naissance, il n'était pas petit. On va voir ensemble un être plus grand que nature qui est né dans des circonstances exceptionnelles, surnaturelles, pour accomplir en notre faveur une œuvre unique et essentielle. Il s'agit vraiment d'un être qui était plus grand que nature. J'ai essayé de résumer ça, vous pouvez le voir sur l'inséré, en trois points. Bref, des circonstances exceptionnelles pour la naissance d'un être plus grand que nature, un être exceptionnel au destin exceptionnel, et enfin, ce petit Jésus n'est pas resté petit, il n'est pas resté dans le tombeau, il veut être ton Emmanuel. Je vais faire quelque chose avec vous ce matin, et ceux qui ne sont pas familiers avec la Bible, j'ai peur un petit peu de vous mêler, alors je vais juste vous mettre en contexte. Le passage dont je viens de lire, un court extrait, est tiré de l'Évangile selon Matthieu. L'Évangile selon Matthieu a été écrit par un des témoins de l'époque. Alors ça s'est passé autour de la vie de la mort de Jésus. On estime probablement que l'Évangile selon Matthieu a été rédigé autour de l'an 50, d'accord, de notre ère. Maintenant, ce matin, parce que je veux prendre le temps d'illustrer le fait que ce Jésus-là, qu'on voit comme étant très, très petit dans notre culture, n'est pas si petit que ça en réalité, parce que je veux souligner qu'il est un être exceptionnel, on va aller voir des textes prophétiques de l'Ancien Testament. On va aller ensemble, je vais lire quelques extraits tirés du prophète Ésaïe. Alors, un prophète dans la Bible est un homme qui était choisi par Dieu. Parfois, il y avait des prophétesses, ça pouvait être une femme aussi. Plus généralement, c'était un homme qui avait été choisi par Dieu et qui recevait de Dieu une révélation. Quelque chose de flyé, c'est surnaturel, d'accord? Mais il recevait une révélation de Dieu et avec cette révélation-là, il communiquait des informations que Dieu voulait communiquer. Un des prophètes principaux de l'Ancien Testament, alors là, on va plusieurs siècles avant Jésus-Christ, s'appelait Ésaïe. Ce matin, on va aller dans le livre d'Ésaïe, lire quelques extraits. Ésaïe a vécu au 8e siècle, grosso modo, avant Jésus-Christ. Donc, les passages que je vais vous lire ont été rédigés à peu près 700 ans avant la venue de Jésus. Il n'y a personne sur la terre. Les plus grands chercheurs, ceux qui décrivent les Écritures, ceux qui remettent en question l'inspiration de la Bible, personne ne doute que ces passages-là ont été écrits de nombreux siècles avant la venue de Jésus-Christ. D'accord? Pour autant qu'on peut savoir, le livre d'Ésaïe a été écrit au 8e siècle avant Jésus-Christ et je veux aller vous lire quelques extraits pour voir ensemble que ce petit Jésus-là était vraiment un être exceptionnel qui s'en venait. Alors, on va se promener entre ces deux textes. Matthieu, 50 ans après Jésus-Christ. Ésaïe, texte prophétique, 8 siècles avant Jésus-Christ. On va aller voir quelques passages ensemble. Simplement pour vous aider à me suivre lorsque je vais me promener dans les livres comme ça. Premièrement, on parle de circonstances exceptionnelles. Le passage que je vous ai lu dans Matthieu 1, les versets 18 à 25, c'est vrai que c'est exceptionnel, j'oserais dire surnaturel, d'accord? On parle d'un être qui aurait été conçu par une femme et par le Saint-Esprit. Il n'y en a pas eu beaucoup dans l'histoire de l'humanité. Pour autant qu'on sache, il y en a eu un seul, d'accord? Parce que c'était exceptionnel, c'était surnaturel. Et parfois, lorsqu'on pense aux gens de cette époque-là qui ont pu lire ce récit-là, on est tenté de se dire, à l'époque, c'était des gens extrêmement crédules. Vous savez, ils n'avaient pas la science, c'était pas des gens brillants, c'était pas des lumières à cette époque-là, et donc ils pouvaient croire un peu en n'importe quoi. C'est faux, d'accord? Cette histoire-là était difficile à croire à cette époque-là. À cette époque-là, bien, les grands-parents ne racontaient pas aux petits-enfants, « Tu sais, mon petit-fils, ta grand-mère, elle a été conçue par le Saint-Esprit, puis elle a été visitée par un ange la nuit. » Ça marchait pas de main non plus dans ce temps-là. On savait à cette époque-là que ça prenait un homme et une femme pour faire des enfants. Et donc, à cette époque, cette histoire était aussi très difficile à croire. Preuve en est que de tout temps, une infime proportion de la population a été chrétienne. D'accord? Alors, à cette époque-là, quand les gens ont commencé à dire, attendez un peu, il vient de se passer quelque chose, des bergers ont été témoins, des mages ont été témoins, il y a un être extraordinaire qui vient de naître, c'était difficile à croire aussi à cette époque-là. Parce que c'est exceptionnel. Parce qu'on parle de circonstances exceptionnelles, surnaturelles, où il y aurait eu cet enfant qui aurait été conçu par une intervention divine, d'accord? Maintenant, je trouve que ceci trouve son sens, commence à devenir plus logique s'il s'agit vraiment d'un être exceptionnel. Parce qu'on s'entend, si c'était Yannick Etier qui était né à ce moment-là, je pense qu'on n'avait pas besoin d'intervention du Saint-Esprit. D'accord? Et si c'était quelqu'un d'autre dans la salle ici, je pense qu'un père, une mère aurait suffi à la tâche. Mais on parle d'un être exceptionnel qui est né, qui viendrait bouleverser l'histoire de l'humanité, qui viendrait bouleverser l'éternité d'un grand nombre de gens qui ont cru en lui à travers les siècles et qui vont continuer à croire en lui, qui vont continuer à placer leur foi en lui. Des circonstances difficiles à croire pour la naissance d'un être exceptionnel. Et ici, dans le passage, je vous l'ai lu tout à l'heure, il nous est mentionné au verset, on va le retrouver, 23. Verset 23, il est mentionné, « Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Alors, il y a cette révélation qui nous est dite que cet enfant-là, qui a été conçu de manière surnaturelle, allait être plus qu'un simple homme, mais qu'il allait être Dieu parmi nous. Mais s'il a été conçu du Saint-Esprit, conçu de Dieu lui-même, est-ce qu'il n'est pas possible qu'il soit plus qu'un homme, qu'il soit à la fois homme et à la fois Dieu? Et c'est, je pense, que Matthieu est en train de nous révéler ici. On va l'appeler Emmanuel, c'est pour ça qu'on chante Emmanuel, Dieu parmi nous, Dieu avec nous. On va retourner 800 ans plus tôt dans le livre d'Ésaïe. Je vais vous lire quelques passages. Si vous connaissez le livre, si vous êtes familier, tournez avec moi. Autrement, je vais vous lire les passages très brièvement, d'accord? Alors, je m'en vais 800 ans plus tôt dans le prophète Ésaïe, au chapitre 7. Au chapitre 7, verset 14, on a une première prophétie qui nous parle de la naissance d'un enfant qui va s'en venir. Chapitre 7, verset 14. « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte. » Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Alors, une femme qui n'a pas connu un homme, allait devenir enceinte, elle allait enfanter un fils et on allait lui donner le nom d'Emmanuel. Je rentrerai pas dans toute l'explication de la prophétie, d'accord? C'est assez complexe, le genre prophétique. Et c'est une prophétie qui a eu probablement un double accomplissement pour les chrétiens, ceux qui sont familiers. D'accord? Il y a eu un double accomplissement. Un accomplissement à l'époque d'Ésaïe, et cela annonçait un accomplissement plus grand qui ne pouvait pas se faire à cette époque-là, mais qui allait se faire en Jésus-Christ. Tout simplement pour dire que dans les chapitres 7, 8, 9, on voit cet enfant-là qui apparaît à différents moments dans la prophétie. À différents moments, le prophète reçoit une révélation et va nous donner plus d'informations sur la venue de cet enfant. D'accord? Et plus on avance dans le texte, plus on voit un personnage qui va venir plus tard, 800 ans plus tard, commencer à apparaître dans le texte. Un personnage extraordinaire. Quelqu'un qui dépasse ce qu'un simple homme peut être. Alors, j'avance dans mon texte. Et il est fait mention de l'enfant au chapitre 8. Je vais aller tout de suite au chapitre 9, verset 5, où il nous est parlé encore de cet enfant qui est né. Et là, on va commencer à prendre la mesure un peu de cet être exceptionnel par ce merveilleux texte prophétique, Ésaïe 9, verset 5. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. » Maintenant, soyez bien attentifs ici. Il y a des qualificatifs qui sont utilisés pour parler de cet enfant qui n'ont jamais été utilisés pour aucun être humain et qui ne le seront jamais pour aucun autre être humain. Et en ceci, Jésus est incomparable. Si l'histoire de la Bible est vraie, Cet être-là est absolument exceptionnel. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule, c'est-à-dire qu'il aura toute autorité. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Je dois vous mentionner que ces qualificatifs d'admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix sont des qualificatifs qu'on utilisait dans l'Ancien Testament, à l'époque d'Ésaïe, dans les siècles précédents, pour parler de Dieu. D'accord? Lorsqu'on utilisait ces qualificatifs-là, on n'était pas en train de parler d'un roi, du grand roi David, de parler de quelqu'un, un homme qui aurait été très, très grand. Admirable, conseiller, Dieu puissant, ce sont des qualificatifs divins. Et dans une certaine mesure, si ce qui est dit ici n'est pas vrai, le prophète est en train de blasphémer. Parce qu'il est en train de dire qu'il y a un être humain qui va naître, un enfant qui va naître, à qui on va pouvoir, avec justesse, en disant la vérité, attribuer ces qualificatifs-là, lui dire de cet petit enfant qu'il est admirable, conseiller, Dieu puissant, Prince de la paix. Alors, voyez-vous, le prophète est en train de nous dire, 800 ans avant la venue de Jésus, qu'un jour, un être va venir, un petit enfant va naître. Il va naître d'une vierge. Et si on veut savoir qui il est, si on veut prendre la mesure de cet être-là, voici qui il est. Toute autorité va reposer sur ses épaules. Il va avoir toute autorité et on va l'appeler Dieu puissant, admirable, conseiller, Prince de la paix. Lorsqu'on retourne dans Matthieu et qu'on entend cette révélation qui nous dit qu'il va être appelé Emmanuel, Dieu parmi nous, on commence à prendre la mesure de cet être-là. Voyez-vous, quand je lis Matthieu 1 et que je lis les circonstances de la conception de Jésus, les circonstances de sa naissance, on pourrait lire Matthieu 2, tout ça avec les mages, puis les anges, puis les apparitions, tout ça apparaît, comme je dis, un peu flyé. Mais moi, je vous pose une question ce matin. Si cet homme-là qui est né il y a 2000 ans, Jésus, qui a bouleversé l'histoire de l'humanité, qui continue à bouleverser la vie de millions de personnes sur la terre, qui décide de placer comme moi, de placer leur foi en lui afin de le laisser nous transformer, et c'est mon expérience personnelle, d'accord? Moi, je peux rendre témoignage personnellement dans ma vie que depuis 20 ans, j'ai placé ma foi en Jésus-Christ, et Jésus, ce Jésus-là, c'est ce que je crois profondément, c'est ce que j'expérimente jour après jour, semaine après semaine, est en train de transformer ma vie, est en train de donner un sens profond à ma vie et m'a réconcilié avec Dieu. Si Jésus est aussi grand que ça, la question que j'ai pour vous, c'est est-ce que ces circonstances-là, si exceptionnelles, sont si extraordinaires que ça? Quelles circonstances est-ce qu'on aurait pu donner à la naissance d'un être semblable? Qu'on va appeler Dieu puissant. Les évangiles nous racontent que ceux qui ont côtoyé Jésus savaient qu'ils étaient en présence d'un être hors norme, plus grand que nature. Ceux qui parlaient avec lui, vous pourrez lire les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Prenez le temps de les lire. Allez l'écouter parler. Allez voir ce qu'il a fait. Si vous arrivez devant des miracles, puis vous dites, « Ouais, les miracles, pour moi, c'est un peu flyé, j'ai de la difficulté à croire à ça. » OK, je vous mets au défi de regarder comment il agit avec les gens qui lui font du mal. Commencez par là. Regardez sa compassion. Écoutez les paroles de sagesse qui sortent de sa bouche. Et quand votre cœur va s'ouvrir à cette sagesse-là pour dire, peut-être qu'il s'agit effectivement d'une sagesse qui vient d'ailleurs, qui dépasse la sagesse des hommes. Peut-être qu'à ce moment-là, votre cœur va s'ouvrir à dire, peut-être qu'effectivement, il est surnaturel, cet être-là. Alors, peut-être qu'il peut faire des miracles. Peut-être qu'il a pu naître comme ça, conçu par le Saint-Esprit. Maintenant, voyez-vous, la Bible nous dit que ce Jésus qui est né dans des circonstances extraordinaires, surnaturelles, comme je le dis, était lui-même un être hors norme, un être exceptionnel. Mais ce n'est pas ce que la Bible a de plus important à nous dire sur Jésus. Ce que la Bible a de plus important à nous dire sur Jésus, c'est qu'il était destiné, il avait un destin exceptionnel. C'est pas la naissance de Jésus que les chrétiens célèbrent tant que ça. C'est vrai que Noël, c'est important pour nous, c'est super important. C'est la venue de Jésus. Mais pour nous, c'est pas ça qui nous touche le plus. Il était sûrement cute. Même la Bible nous dit qu'il était pas si cute que ça. Il y avait rien pour attirer le regard. Fait que c'était un bébé comme tous les bébés, tu sais, qui pue des fois, puis qui fait des gouzi-gouzi. C'est un petit Jésus, dans ce sens-là, oui. Mais voyez-vous, la Noël, pour nous, c'est pas ça qui est le plus important. Parce que sa naissance, même si elle est extraordinaire, ce n'est pas ce que nous retenons de crucial chez ce personnage-là. Son destin, ce qu'il venait accomplir beaucoup plus tard, 30 et quelques années plus tard, voilà ce qu'il y avait d'exceptionnel avec Jésus. Dans Matthieu 1, toujours au verset, laissez-moi me retrouver ce matin, je suis perdu, verset 21. L'ange parle à Joseph, encore quelque chose de flyé, une apparition angélique, ça n'arrive pas à toutes les pages de la Bible. Mais comme je vous dis, c'est Jésus qui naît ici. L'ange parle à Joseph et voici ce qu'il dit au verset 21. « Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus qui veut dire « Dieu sauve, Dieu sauve, Dieu est au milieu de nous pour sauver. » Yeshua, Yeshua. Et après ça, ce qu'il dit, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Voici ce qui nous intéresse le plus dans la personne de Jésus, sa destinée, son destin. Jésus est né dans des circonstances exceptionnelles, mais son destin était encore plus exceptionnel et plus extraordinaire. Il nous est dit qu'elle enfantera un fils à qui tu donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Si vous avez déjà entendu parler de Jésus, avant Noël, ce que vous avez entendu parler de lui, c'est comment il est mort. Les historiens s'accordent tous pour dire qu'il y a un Jésus de Nazareth qui a vécu, qui est mort crucifié. À l'époque, on était sous l'Empire romain. Israël est un tout petit pays qui était à l'intérieur de l'Empire romain. Et à l'époque, les Romains utilisaient un supplice, qui était très commun, d'accord? C'était pas quelque chose d'exceptionnel. Mais ils utilisaient un supplice pour se débarrasser de criminels politiques, des gens qui s'opposaient au système, ou tout simplement de grands criminels. Et spécialement s'ils n'étaient pas juifs, s'ils n'étaient pas romains, s'ils n'étaient pas citoyens romains. Et donc, qu'est-ce qu'on faisait? C'est qu'on les crucifiait. C'est une pratique assez courante à l'époque. On les crucifiait et les gens étaient tout simplement suspendus par leurs bras. On leur clouait le pied pour leur donner la chance de respirer quelques jours, quelques heures. Parce que si on vous pendait par les bras, après un certain temps, vous ne seriez plus capable de respirer simplement suspendu. La raison est simple, c'est de la physique, on est en biologie ici, on respire avec le diaphragme ici. C'est avec mon diaphragme que j'arrive à respirer. Et si je vous pends par les bras après un certain temps, votre diaphragme cesse de travailler. Vous n'arriverez plus à respirer. C'est pour ça qu'on avait un clou dans les pieds. C'est pour se donner une chance tout simplement de venir chercher notre air un peu. Donner de l'oxygène. Puis on se reposait encore. Et le supplice durait plusieurs jours, jusqu'à temps que le supplicié, qui avait souvent été battu avant, arrive à quelque part au bout de son sang, au bout de son énergie, et qu'il n'ait plus la force de pousser avec ses jambes, et qu'il se laisse tout simplement mourir, soit d'une crise de cœur ou par asphyxie. Maintenant, tous les historiens reconnaissent que ce Jésus de Nazareth est venu, a vécu, puis est mort comme d'autres Juifs qui avaient été crucifiés. Il a été crucifié. La Bible nous dit cependant que cette mort-là lui était destinée. La Bible nous dit que Jésus venait sur la terre pas pour être un beau petit bébé gazou-gazou, puis qu'on allait adorer, puis les rois mages, les mages allaient venir, puis commencer à donner toutes sortes de présents. Il venait pour se rendre à la croix. Il allait être crucifié sur cette croix, et en faisant cela, il allait offrir sa vie en sacrifice. Alors, je vous ramène une dernière fois ce matin dans l'Ancien Testament, on s'en retourne encore une fois, 800 ans plus tôt, on va aller ensemble dans le livre d'Ésaïe, un peu plus loin cette fois-là, au chapitre 53, pour vous parler encore une fois de cet être extraordinaire, hors norme, qui avait été annoncé 800 ans plus tôt, 700 et quelques années plus tôt, 8 siècles plus tôt. Il nous était parlé d'un enfant qui allait naître d'une vierge, on l'a vu ensemble dans Matthieu 1. Il nous était parlé que cet être-là allait être extraordinaire, on pourrait le qualifier de Dieu puissant, d'admirable, de conseiller. Mais au chapitre 53, il nous est parlé de sa mort. Et vous savez ce qui est fascinant, les gens des fois lisent ça puis ils disent « Ok, mais est-ce que vraiment on est sûr que ça parlait de Jésus? » Certains chrétiens ont décidé de faire le test, ils ont fait lire ce passage-là à des Juifs. Vous savez que la majorité du peuple juif ne reconnaît pas Jésus comme le Messie. Certains d'entre eux se convertissent, Dieu merci. Mais la majorité, non, ne croit pas en Jésus, ne voit pas en lui leur Messie. Mais pourtant, si vous prenez le temps de leur faire lire un passage comme ça, ou psaume 22, allez leur faire lire des textes semblables, ils ont vraiment une énigme. Vraiment une énigme. Parce qu'on dirait vraiment qu'il est question de Jésus ici. Parce qu'il est question de Jésus. Je vous lis quelques versets. Ésaïe 53, verset 1. « Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel, le bras de Dieu? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. » On parle de sa naissance, on parle de l'apparition de cet être-là. On ne sait pas encore c'est qui vraiment ici. « Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. » Ce que je dois vous dire, c'est qu'à l'époque, lorsque les Juifs, à l'époque de Jésus, lorsque les Juifs voyaient un Juif se faire crucifier, vous savez, les Juifs croyaient vraiment que Dieu est Dieu, puis c'est lui le grand patron de la terre. Et si Dieu permet qu'il t'arrive quelque chose, les Juifs se disaient, Dieu permet rien pour rien. Fait que si ce gars-là est sur la croix, si ce Jésus qui était supposé, qui nous disait qu'il était celui qui était attendu, le Messie, s'il est là sur la croix, c'est parce que Dieu l'a rejeté. Ça ne peut pas être le Messie. Il ne peut pas être là. Il a été puni de Dieu. Mais c'est ce que Ésaïe 53 nous dit ici. Verset 4, « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Je reviens dans Matthieu 1. Quand l'ange apparaît à Joseph et qu'il dit à Joseph, « Voici, cet enfant-là va naître, tu vas lui donner le nom de Jésus, qui veut dire Dieu sauve, Yahvé sauve. » Parce qu'il vient pour sauver son peuple de ses péchés. Ce que les Juifs n'ont pas saisi à l'époque, très peu nombreux l'ont saisi, d'autres vont le saisir plus tard et vont venir à placer leur foi en Jésus. Un plus grand nombre, après sa résurrection, même vont croire en lui. Ce qu'ils n'ont pas saisi, c'est que Jésus venait pour les sauver beaucoup plus que des Romains. À l'époque, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est dans l'Empire romain, puis Israël est un tout petit pays à l'intérieur de l'Empire romain. Si Jésus était arrivé puis il avait soulevé une armée puis ils avaient libéré de l'oppresseur romain, peut-être que là les Juifs auraient dit waouh, il est vraiment hot. Mais vous savez, dans la vie, souvent, on voudrait que les choses autour de nous, les circonstances changent. Les Juifs à l'époque auraient voulu que les circonstances de leur vie changent. Et on est comme ça. On avance dans la vie, chacun d'entre nous. Et il y a des choses qui vont pas. Des fois, on n'a pas de travail. Les gens avec qui on voudrait être proche, on voudrait être amis, c'est difficile d'avoir des relations. On cherche un amour qui va venir combler tous les désirs dans notre cœur. Il y a toutes sortes de circonstances, des problèmes de santé. Et on voudrait que des circonstances autour de nous changent. On voudrait être sauvés des circonstances autour de nous. Les Juifs à l'époque auraient voulu être sauvés de cette circonstance politique autour d'eux. Maintenant, Dieu, qui est notre Créateur, sait pertinemment que le salut, cette question d'être sauvé, c'est premièrement intérieurement que nous en avons besoin. Comme être humain, ce que nous avons besoin qui change le plus fondamentalement, ce n'est pas les circonstances de notre vie. J'ai pas besoin que ma femme soit différente. J'ai pas besoin que mes enfants soient différents. J'ai pas besoin que toutes les circonstances de ma vie changent autant que j'ai besoin que mon cœur à moi change. Que l'intérieur. Et les Écritures nous parlent de cette réalité qui est dans le cœur de chaque être humain qu'on appelle le péché. C'est ce côté sombre de tout homme, de toute femme, des enfants. Vous le voyez apparaître. Si vous avez des enfants, OK, après les gazou-gazou, là, ça vient assez vite. Vous allez voir, ils sont malins. Je parlais avec une amie cette semaine, puis je disais, est-ce qu'il y a une place plus cruelle ou être que dans une cour d'école au primaire pour un enfant qui est pas trop beau puis qui est maladroit? Les enfants ont aussi ce côté sombre en eux. Il y a à l'intérieur de chaque être humain ce côté-là très sombre qu'on appelle le péché. C'est celui-là qui nous pousse à mentir, à être hypocrite, à être égoïste, à frauder, à être violent, à être mesquins les uns envers les autres, à être infidèles, à être malhonnêtes, incapables de construire un amour où on se donne l'un pour l'autre parce qu'on veut toujours tirer la couverture chacun de notre côté. C'est ce qu'on appelle le péché. Et voyez-vous, notre Créateur, Dieu notre Créateur, désire que nous soyons en communion avec lui. Or, lui n'est pas pécheur. Si c'est Dieu, s'il est le Créateur, il n'est pas pécheur. Le secret du bonheur, ici sur la terre et dans l'éternité, c'est simplement d'être réconcilié avec Dieu, avec ce Dieu-là. Et pour que je sois libéré, que je sois sauvé de mes péchés, il fallait que Jésus-Christ vienne avec cette destinée exceptionnelle, non seulement de naître dans des circonstances exceptionnelles, mais d'aller mourir sur une croix. D'aller mourir sur cette croix, Ésaïe nous dit, afin de payer le prix de mes péchés à moi, de tes péchés à toi, si tu veux croire en lui. Les Saintes Écritures nous disent en terminant que Jésus n'est pas resté là. Il n'est pas resté sur cette croix, il n'est pas resté dans ce tombeau. Sa destinée est exceptionnelle non seulement par sa mort, parce qu'il allait offrir sa vie en sacrifice, mais sa destinée est exceptionnelle par sa résurrection. Les Saintes Écritures nous disent que le troisième jour, Jésus est sorti du tombeau. Plus de 500 personnes ont été témoins de sa résurrection. Encore une fois, c'est extraordinaire. Mais je vous rappelle, c'est celui dont Ésaïe le prophète, 8 siècles plus tôt, disait, on l'appellera Dieu puissant, admirable, conseiller, prince de la paix. Ce Jésus-là, non seulement est mort sur la croix, mais il est ressuscité d'entre les morts le troisième jour. À la fin de l'évangile de Matthieu, au chapitre 28, on trouve Jésus qui est ressuscité dans les derniers moments où il est avec ses disciples et il fait une déclaration incroyable. Jésus déclare, alors qu'il est avec ses disciples, il dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Rappelez-vous dans Ésaïe, qu'est-ce qui avait été dit? La domination reposera sur son épaule, il aura toute autorité. Jésus dit à la fin de l'évangile de Matthieu, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Au début de l'évangile de Matthieu, il nous est dit que ce Jésus-là est Emmanuel, Dieu qui va être parmi nous. On a vu ensemble qu'il s'agit d'un être exceptionnel, un être extraordinaire, avec une destinée extraordinaire, mourir sur cette croix, ressusciter d'entre les morts, et une fois ressuscité, Dieu le Père qui a accepté son sacrifice, l'a élevé au-dessus de tout nom, il lui a donné toute autorité, dans les cieux et sur la terre. Et la fin de l'évangile de Matthieu se termine avec Emmanuel encore. « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Dieu parmi nous. On va fêter Noël d'environ une semaine. Et cet Emmanuel qui est venu sur la terre il y a environ 2000 ans, je crois personnellement, c'est mon expérience, c'est l'expérience de millions de chrétiens sur la terre. De millions et de millions de chrétiens à travers 2000 ans d'histoire. Des gens qui ont connu Jésus-Christ et qui ont vu Jésus-Christ transformer leur vie. Mon expérience à moi, c'est que Dieu est bien vivant, qu'il a envoyé son Fils qui est venu parmi nous. C'est Dieu le Fils, Emmanuel parmi nous. Ce Fils-là est né et il est mort sur une croix afin de nous sauver de nos péchés, de nous sauver de cette part tellement sombre à l'intérieur de nous, afin qu'on puisse être réconcilié avec Dieu et avoir cette absolue sécurité qu'aujourd'hui, demain, quand je retourne au travail, Emmanuel, Dieu est avec moi, avec toute son autorité, toute sa puissance pour m'accompagner. Mon Emmanuel désire être ton Emmanuel. Moi, personnellement, je l'ai connu. J'ai placé ma foi en lui, puis je l'ai vu transformer ma vie. Puis les gens qui me connaissent savent qu'il fait de moi de plus en plus quelqu'un qui cherche l'humilité, quelqu'un qui reconnaît ses fautes, quelqu'un qui demande pardon, quelqu'un qui cherche la sainteté dans sa vie avec joie. Ça, c'est l'œuvre de Dieu dans ma vie, dans la vie de plein de gens ici. Mon Emmanuel voudrait devenir ton Emmanuel cette année à Noël. S'il touche ton cœur ce matin, si dans ton cœur tu sens quelque chose, une œuvre surnaturelle, je vous l'ai dit depuis tantôt, on parle d'un être exceptionnel, d'un être surnaturel. On parle d'un être qui est Dieu. Si ce matin, tu sens dans ton cœur que quelque chose de surnaturel est en train de se produire et qui est en train de t'attirer à toi, je t'invite ce matin, je t'invite. Accroche un ami ici, accroche quelqu'un qui connaît le Seigneur, accroche un chrétien. Dis-y, j'ai besoin de le connaître, ce Jésus-là. Je veux pas passer un autre Noël avec un petit Jésus culturel. Mais je voudrais passer Noël avec ce Jésus énorme qui peut donner un sens à ma vie, à ma mort et à mon éternité. On va prier ensemble. Éternel notre Dieu, je veux t'adorer. Seigneur Jésus, je veux t'adorer ce matin. J'adore Seigneur parce que je crois en toi, je crois que tu es là, tu es vivant Seigneur, tu existes et tu es venu marcher au milieu des hommes, tu es venu te manifester au milieu de nous. Ta naissance Seigneur a été extraordinaire, c'est vrai. Difficile à comprendre, difficile à croire Seigneur, mais ta parole nous a révélé que tu es plus grand que nature. Tu n'es pas qu'un homme. Tu es un homme et tu es Dieu fait homme. Seigneur Jésus, ta destinée, ta mort et ta résurrection sont encore bien plus grandes que ta naissance, Seigneur. Seigneur, j'aimerais te prier pour chacun d'entre nous alors que nous nous apprêtons dans une semaine à fêter Noël. Je pense premièrement aux chrétiens, Seigneur. Tu connais nos cœurs, nous demeurons pécheurs et cette histoire merveilleuse qui a transformé notre vie, parfois, Seigneur, parce que nous nous arrêtons aux choses de cette vie, nous perdons de vue, Seigneur, l'éternité. Parfois, cette histoire perd de sa saveur dans nos cœurs, Seigneur. Nous le confessons. Et c'est pour ça que c'est précieux pour nous de célébrer Noël encore une fois, Seigneur. Alors, je te prie, Père, pour tous ceux et celles qui sont chrétiens, qui te connaissent et pour qui Noël a perdu sa saveur, accorde-leur cette grâce par ton esprit. Viens faire cette œuvre par ton Esprit Saint, Seigneur. Viens ranimer cette flamme, Seigneur, de Noël dans leur cœur. Mais Père, j'aimerais te prier pour nos enfants, te prier pour nos conjoints, te prier pour nos familles, te prier pour nos invités ce matin, pour les gens qui viennent ici, Seigneur. Et pour qui Noël est une fête culturelle, avec une connotation religieuse. Mais pour qui, Seigneur Jésus, tu n'es pas leur Emmanuel? Oh, Seigneur Jésus, je crois que c'est par ton esprit que tu interviens dans le cœur des hommes pour les attirer à toi. Je t'en prie, Emmanuel. Je t'en supplie. Viens et attire à toi, Seigneur, afin que tu sois leur Emmanuel cette année. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Dieu puissant, Prince de paix, admirable conseiller. Amen.